je souffre d'anorexie mentale, par conséquent aussi d'orthorexie, c'est-à-dire que je sélectionnais mes aliments, donc anorexie mentale. Alors, l'anorexie mentale, c'est la restriction progressive de l'alimentation jusqu'à des fois disparaître complètement. C'est-à-dire qu'il m'est arrivé pendant 18 mois de ne manger qu'un œuf dur par jour. Et l'orthorexie, c'était, disons, la sélection d'un aliment ou de deux ou plus, mais certainement des aliments qui sont très peu calorifiques. Donc, on sélectionne les aliments en fonction de leur petite teneur en calories, généralement. Ma maladie s'est manifestée alors que j'étais encore, pour moi, une enfant, parce qu'à 12 ans et demi, en tout cas à l'époque, on était encore une enfant. Je jouais déjà encore beaucoup. Mon père est parti et je n'ai plus eu faim. C'était le début de... C'était un traumatisme qui... Peut-être voulais-je rester une enfant, la raison pour laquelle j'ai plus eu faim. Ça doit être ça. J'ai jamais trouvé réellement la cause. Et je ne sais pas si j'ai envie de chercher. Mais c'était le déclencheur de la maladie, certes. Oui, ben voilà, mon papa est parti. En fait, il était parti pour 3 mois et il n'est jamais rentré à la maison. Donc, je l'ai attendu. Et puis, il est parvenu. Alors, j'ai pas compris. Et puis, progressivement, ben, j'ai plus faim. Et voilà, et la maladie s'est installée de façon tout à fait insidieuse. Parce que j'étais une petite fille qui aimait bien manger, qui aimait bien jouer, qui avait beaucoup de joie de vivre. La joie de vivre ne s'est pas tarie, mais l'appétit, oui. Avec mon père, je jouais beaucoup. Et ben là, j'étais en plein commencement de l'adolescence. Et certainement de vouloir rester une enfant, puisque peut-être pour quand je retrouvais mon père, qui me retrouve la même chose que quand il m'a quittée. C'est une des possibilités. Ça doit être ça, en fait. Pour qu'il retrouve une petite fille. La même petite fille qu'il avait quittée. Je n'ai pas eu de passage de l'enfance à l'adolescence, puisque j'étais en pleine mutation physique. Donc j'ai gardé, à l'heure actuelle, en tout cas un squelette de mes 13 ans. J'ai beaucoup maigri, ma mère m'a hospitalisée. Mais à l'époque, on ne traitait pas l'anorexie comme on la traite maintenant. Ce qui fait qu'on m'a hospitalisée, mais sans vraiment me soigner. Et un jour, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu un déclic. Et j'ai vu que j'étais au bord du gouffre. Donc je suis sortie de l'hôpital de pédiatrie. J'ai foncé dans la première cabine téléphonique qui était juste devant l'hôpital de pédiatrie. J'ai appelé ma mère. Je lui ai dit « Je ne reviendrai plus à la clinique, à l'hôpital de pédiatrie. Viens me chercher, j'ai faim. » Là, ça a été le soubresaut salvateur qui m'a permis de rester en vie. Mais je me suis débrouillée comme j'ai pu, en fait. Je me suis réalimentée toute seule, sans savoir ce qui m'arrivait. Je ne savais pas. Ma maman non plus, d'ailleurs, ne connaissait pas cette maladie. J'ai mangé, j'ai été malade parce que je ne savais pas comment il fallait faire. Donc, les années ont passé, j'ai toujours été très mince et j'ai réussi à m'en sortir tant bien que mal, à faire des professions, à travailler, à apprendre beaucoup de choses. En fait, j'ai eu une boulimie d'apprendre. Toujours un appétit modéré, mais j'ai quand même eu un corps toujours très mince, mais pas trop, trop maigre quand même. J'aurais eu besoin d'un encadrement pour ne pas souffrir de cette maladie toute ma vie. Parce que jusqu'à aujourd'hui, j'en étais complètement inconsciente. C'est pas que j'étais dans le déni, c'est que je savais juste pas. J'étais dans l'ignorance complète. Non, elle a pas vraiment eu des pics. Le dernier pic que j'ai eu, c'est il y a quelques mois en arrière, où il y a eu beaucoup de chocs traumatisants, il y a eu des décès, il y a eu vraiment des choses assez violentes qui se sont produites. Et c'est ça qui a réactivé la maladie qui était dormante finalement, qui était dormante en moi. C'est ça qui a révélé que j'étais toujours malade, parce que j'ai jamais pensé que j'étais malade. Moi, je dirais que l'événement qui m'a marquée, bon déjà, c'est que j'ai pu avoir un enfant. Ça, c'est pas lié à la maladie, mais je n'ai jamais eu de menstruation de règles. Et j'ai eu une ovulation, c'était mon fils, et mon fils est né. Donc ça, c'est un événement dans la maladie Et je ne savais pas que je souffrais de cette maladie, mais je savais que je n'avais pas de menstruation. Donc ça, c'est un événement extraordinaire qui s'est produit malgré tout. Et puis, un événement marquant, c'est quand je suis arrivée ici, puis que j'ai réalisé que je souffrais d'anorexie. En arrivant ici, je ne savais juste pas. J'étais vraiment dans l'ignorance complète de ce que j'avais. Et c'est en apprenant, en prenant des cours, en étant informée que je me suis... Et puis en voyant aussi d'autres personnes qui souffraient de la même maladie que moi, qu'on avait, moi, ce que je pensais unique en moi, comme façon de manger, comme façon de découper ma nourriture, comme ce que je mettais sur la nourriture aussi. On sale beaucoup les aliments, on poivre beaucoup. Donc, toutes ces choses que je faisais en pensant que j'étais l'unique personne au monde à faire ce genre de choses, eh bien, j'avais des sœurs qui faisaient la même chose que moi. Donc, c'est très parlant quand on a cet effet miroir pour vraiment être sûr qu'on est dans la maladie. Déjà, ces traits de personnalité que nous avons, c'est-à-dire que le perfectionnisme à l'extrême, le fait aussi d'être d'une endurance, d'une force, d'une volonté incroyable dans tout ce qu'on entreprend. On se met des objectifs énormes. Et généralement, on les obtient. Ce sentiment de toute puissance que j'avais, c'est-à-dire que voilà, on a l'impression qu'on peut vivre sans manger, que c'est tout à fait normal et qu'on peut être surhumaine, sans vanité pourtant. Je pense que toutes les personnes que j'ai côtoyées, en tout cas ici, ont certainement eu ce sentiment, je ne sais pas, mais je n'ai senti jamais aucune vanité par rapport aux autres. Donc c'est simplement par rapport à soi-même qu'on se sent surhumain. Alors, quand j'étais enfant, ma maman a été très désemparée par rapport à ma maladie. Elle a beaucoup souffert, elle ne savait pas quoi faire. Elle était, elle a fait absolument le contraire de ce qu'on nous enseigne ici, parce qu'elle ne savait pas. Donc, c'était beaucoup dans les reproches, en mentionnant ma maigreur, en appuyant là où ça fait mal. Et moi, j'aurais eu besoin de tendresse. J'aurais eu besoin qu'elle me prenne dans les bras et qu'elle me dise « j'ai peur ». J'ai peur pour ta vie. Et je pense que sincèrement, elle avait peur pour ma vie. Mais pour me ménager, elle n'a jamais exprimé ça. Aujourd'hui, mon entourage, donc des années après, était complètement inconscient de ma maladie parce que comme je vivais à 200 à l'heure, que je faisais, que je travaillais, que j'invitais, que j'organisais des fêtes, ils ont juste passé à côté de ma maladie. Parce qu'une force que nous avons, c'est de cacher avec une très grande habileté à l'entourage de quoi nous souffrons. Donc l'énergie qu'on puise je ne sais pas où, dans la volonté, fait que les autres ne voient pas, parce qu'ils se disent « bon, elle fait plein de choses, elle est en pleine forme ». Et on arrive aussi à cacher des fois son corps avec des habits un peu amples ou... Voilà, à ne pas trop révéler ou dévoiler certaines parties de notre corps qui pourraient faire penser qu'on est malade. Alors oui, malgré qu'on arrive à cacher à l'entourage qu'on est malade, l'entourage voit bien qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond, qu'on perd du poids, et puis comme la maladie devient de plus en plus présente, on devient de moins en moins efficace. Donc vu qu'on décline gentiment, l'entourage commence à s'inquiéter. Et cette inquiétude, on essaye de la camoufler encore en disant « mais non, ça va, je suis juste un peu fatiguée ». Parce que nous-mêmes, on est inconscient de ça. Et on n'a pas envie d'être fatigué. Donc, l'entourage est inquiet, mais moi, dans mon cas, personne n'a été alarmé. Parce que j'ai été chez le médecin, il m'a fait des analyses de sang. Les analyses de sang étaient absolument normales, mis à part les reins qui ne fonctionnaient pas très bien. Mais il m'a fallu aller voir un autre médecin qui, lui, a pris en compte mon état de santé et urgemment m'a fait hospitaliser. Mais l'entourage, ils ne s'en rendent pas compte. Il y a plein de gens qui ont culpabilisé après coup parce qu'ils se sont dit « mais comment on n'a pas vu ?» Donc, ils se réveillent une fois qu'on est à l'hôpital. Ils disent « ah, mais... » Oui, ils culpabilisent beaucoup, mais ce n'est pas de leur faute. Certes, non. Et quand il... moi, maintenant, depuis que ma maladie, elle a été révélée, je me soigne, mon entourage est apaisé, heureux. Mon compagnon, il est admiratif, il est heureux, il est soulagé. Donc, de mon côté, je n'ai que de la bienveillance. De la bienveillance, de l'amour et un grand soulagement. Oui. Alors moi, je n'ai jamais eu de prise en charge médicale avant ici. Ici, honnêtement, quand je suis arrivée, je ne me rappelle pas de grand-chose parce que je ne me rappelle plus. J'étais tellement faible et dans un état de dénutrition tellement élevé que ma mémoire n'a pas enregistré. Je me rappelle simplement d'un accueil particulièrement chaleureux. Et je me suis sentie tout de suite bien. Je n'avais pas eu d'hospitalisation donc avant. Là, ça fait 2 mois que je suis ici à la clinique. J'ai eu une très bonne prise en charge au niveau des soins, mais aussi au niveau des formations. C'est grâce à ça que j'arrive à me soigner bien. Avoir, après 2 mois seulement, récupéré une énergie dont je m'épate moi-même. Alors, ce qui a été utile dans cette prise en charge, c'est d'abord de reconnaître que je souffrais d'anorexie. Ensuite, d'avoir un suivi psychologique très important, très bien, on est bien cadré. C'est aussi cette rigueur au niveau de l'organisation qui nous met dans un contexte où le travail, c'est la santé, en fait. C'est marrant parce qu'il y a une chanson qui dit « le travail, c'est la santé », mais là, c'est la santé, c'est le travail, je dirais. On va inverser la chose. Oui, la santé, c'est le travail. Donc, tous les cours qu'on fait qui nous apprennent ce que c'est que la maladie, quelles sont ces pensées qu'on peut avoir face à une assiette qui nous bloque, d'essayer de trouver des pensées alternatives pour se libérer de cet emprisonnement qu'on s'est fabriqué soi-même par rapport à la nourriture. En fait, ça nous réapprend, enfin moi en tout cas, ça me réapprend à devenir un petit enfant qui est libre de toute contrainte psychologique, qui n'est pas enserré comme dans un corset, enfin la tête. Ça m'a libérée de beaucoup de choses, oui, tous ces cours, toutes ces pratiques, et il faut répéter les pratiques. Et en les répétant, on les intègre. Et en les intégrant, on les comprend. En les comprenant, ça nous éveille à autre chose. Des fois, il faut qu'on les répète beaucoup et beaucoup pour comprendre. Puis un jour, on comprend. Et puis on va plus loin. C'est vraiment un apprentissage comme un enfant. C'est des nouvelles choses. Oui, ça, c'est ça qui m'a beaucoup aidée. J'ai réalisé que j'étais bien malade il y a 2 mois, hein, déjà en arrivant ici. Parce que je me sentais au bord du gouffre. Je me sentais disparaître. Et j'aurais pu disparaître. Je le sais maintenant parce que j'en ai parlé avec le corps médical et que dans mon cas, c'était une question de jours, ce n'était même plus une question de semaines. Donc je m'en suis assez rapidement rendu compte en étant ici. Ah ben la guérison, pour moi, c'est un miracle. C'est une nouvelle naissance, c'est une reprise de sensations que je pensais avoir oubliées ou appartenir à l'enfance. C'est miraculeux. Oui, pour moi, c'est un miracle, c'est une joie, puis c'est un voyage intérieur extraordinaire, c'est une transformation, mais une transformation de vie. Moi qui ne suis jamais devenue une femme, je vais enfin savoir ce que c'est. Donc ça m'épate de voir. Et personnellement, je suis épatée de me trouver de jour en jour plus forte, plus en santé, plus capable de réfléchir et aussi au niveau physique plus belle. Parce que pour moi, la perfection physique est aussi quelque chose qui m'a toujours tenu beaucoup à cœur. De me voir me transformer comme ça, c'est une réjouissance. Oui. J'ai jamais confondu ma personnalité avec le trouble. Pour moi, la maladie, ça a toujours été une espèce de... Quand j'étais plus jeune, quand j'avais 12 ans et demi, j'avais l'impression que j'avais une bête noire qui était à l'intérieur de moi et qui me mangeait. Mais c'était pas moi, c'était une bête qui était dedans. Et là, ben non, j'ai jamais perdu mon identité par rapport au trouble. Je n'ai jamais senti que j'étais le trouble. J'ai toujours été Nathalie. Par contre, le trouble me détruisait. Je ne savais pas d'où il venait, ce trouble. Je ne savais pas qui était l'ennemi. On ne sait pas que c'est soi-même l'ennemi. Enfin, en quelque sorte. C'est tellement sournois. Comment on pourrait se faire du mal? C'est impensable. Le futur, ça sera déjà un futur proche. Donc ça sera la suite de mon hospitalisation, la sortie d'ici, de la clinique. Après, ça sera 3 mois d'organisation assez rigoureuse pour ne pas replonger dans le trouble, dans la maladie. Et après, ça sera des projets de vie, de voyage. Parce que toute ma vie, je n'étais qu'en état de survie. Et maintenant, je vais découvrir ce que c'est que l'état de vie. Rien qu'en soi, c'est une grande chose. Je crois qu'on n'a pas besoin de voyager loin pour sentir ça. Donc mes projets, c'est ça, c'est de continuer à vivre, j'espère encore quelques bonnes années, hein, et vivre libérée de ça. C'est ça mon futur. La difficulté, c'était toujours qu'on me parlait de ma maigreur, donc ça a été toujours très... Ça m'a toujours beaucoup énervée. Les clichés, je ne sais pas si j'ai vraiment eu de clichés au niveau de ça, à part physiquement. À part l'énervement, ça ne m'a jamais trop affectée, non. Je n'ai jamais été vraiment trop déstabilisée par ça, parce que je crois que j'ai assez confiance en moi de ce côté-là. Voilà, c'était simplement ces réflexions sur mon physique hein, qui m'ont beaucoup déconcertée, agacée. Voilà. Moi, je pense que c'est au niveau de l'information à la population. Les gens sont très ignorants de beaucoup de choses. Et l'anorexie est une maladie encore fort méconnue dans la population. D'ailleurs, la plupart de mes proches ne savaient pas ce que c'était. Je pense que l'information serait un bon moyen de compréhension pour les gens qui nous entourent et beaucoup de gens qui ont des préjugés sur les gens, qu'ils soient grands, petits, plus minces, plus importants. Enfin, je veux dire, peu importe. L'information est indispensable, je pense. Oui. Alors ça, c'est une question qui est très pertinente et très impertinente. Parce que quel conseil pourrais-je donner à quelqu'un qui souffre de TCA? Quel conseil on aurait pu me donner que j'écoute? C'est ça que je me pose comme question. Peut-être que je ne lui donnerai pas de conseil. Je lui dirais peut-être, est-ce que tu t'aimes? Parce que souvent, les TCA, on s'oublie. On s'oublie à travers les choses qu'on fait, les études qu'on fait, ce qu'on fait. Mais on ne pense plus qu'on est. On oublie son corps, on oublie de l'aimer, on oublie de le nourrir. Ça, c'est une partie de la maladie. Alors, un conseil que je pourrais donner à quelqu'un qui souffre de TCA, c'est aime-toi. Aime-toi, mais aime-toi de toutes les façons. Aime ton intelligence, aime la personne que tu es, ton identité, mais aime ton corps. Chéris ton corps, c'est ton temple. C'est ta maison. C'est ce qui va te permettre de rentrer en relation avec les autres, de vivre, de tout faire. Donc, aime-toi. J'ai appris beaucoup à m'aimer ici. Merci à la clinique, à la clinique Belmont. Merci à tous ceux qui m'ont permis d'être là aujourd'hui et de parler, de vivre. J'aimerais dire aux familles qui ont des personnes comme moi dans leur... entourage, que ce soit leur enfant ou des compagnons qui auront des compagnes comme ça. C'est plus souvent des femmes qui s'ouvrent d'anorexie. De les aider, mais de ne pas les juger. D'essayer de comprendre, de s'informer, de les guider, mais avec douceur, amour. Parce que je pense que l'amour, quand on a l'amour, on a tout. On peut sauver, on peut guérir, on peut aller plus loin, plus fort. On a besoin de vous. On a besoin aussi de gens qui nous entourent et qui nous aiment pour atteindre notre but. On ne peut pas y arriver tout seul.